Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Repensons la paix et la sécurité, le podcast de Stop Feeling War qui questionne la sécurité, les ventes d'armes et la paix. Nous sommes Holly et Alice de l'association Stop Feeling War et aujourd'hui nous recevons Laetitia Sédou de l'INAT pour discuter de l'Union européenne et de processus de militarisation. Cet épisode est en deux parties. Et la première partie a déjà été publiée il y a 2 semaines, donc vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes, dont Spotify ou sur notre site internet. Vous écoutez maintenant la seconde partie de l'épisode sur la militarisation et l'Union européenne, où nous nous interrogeons plus précisément sur les programmes de défense européens, tels que le Fonds de défense européen, les liens entre ces programmes et le commerce des armes, et les conséquences économiques et en termes de décisions politiques que ces programmes ont. Et alors, comme nous, à Stop Feeling War, on travaille principalement sur les armes, le commerce des armes, ça nous intéresse de savoir quels sont les liens entre ces programmes qui sont mis en place et le commerce des armes. On a beaucoup parlé du fait que les industriels qui produisent des armes sont très liés à l'instauration de ces programmes. Donc, on voudrait savoir un peu les conséquences que ça a sur les exportations d'armement et les ventes d'armes en général.
Oui, tout à fait. C'est clair que voilà, nous aussi, en tant que réseau européen contre le commerce des armes, on pourrait nous dire, bon, mais en quoi ça vous concerne, ces programmes de recherche et développement, de toute façon, par rapport à votre thématique. Bah, effectivement, d'abord, il faut voir qu'une des priorités du Fonds européen de la défense, puisque c'est effectivement présenté comme un programme industriel, c'est aussi de soutenir la compétitivité globale de l'industrie de l'armement. Donc, l'idée, c'est d'avoir des grands champions, effectivement, qui vont pouvoir être en compétition, pouvoir maintenir la concurrence face aux énormes complexes industriels américains, évidemment, en premier. Hein. Après, il y a d'autres acteurs qui développent aussi leur propre marché. Donc, on a la Chine, on a la Turquie, on a même le Brésil, il y en a l'Inde, qui en plus, eux aussi, essayent d'avoir leur part du gâteau de ce marché des exportations d'armes. Et donc, une des motivations du Fonds européen, c'est bien ça. Qui dit compétitivité globale, dit exportation. Donc, clairement, on voit bien qu'une des volontés, c'est effectivement de faciliter les exportations d'armes, de donner à l'industrie européenne de l'armement des avantages, à la fois avantages financiers, puisque c'est une forme de subside. Hein. Donc, c'est une forme de subside public qui s'ajoute, ça c'est important à rappeler, qui s'ajoute aux subsides publics nationaux, puisque le Fonds européen vient s'ajouter aux dépenses nationales, et il ne vient pas remplacer, donc il n'y a pas de réduction des dépenses militaires qui soient gagnés au niveau national, puisqu'en fait, tout ceci, ce sont des couches qui s'ajoutent les unes aux autres. Donc, clairement, il y aura un boost, parce que c'est un des buts du Fonds européen de la défense, aussi parce que le marché européen, en fait, est un marché relativement petit, comparé au marché américain, petit et assez fragmenté, et assez fermé, c'est-à-dire qu'il y a quand même des liens privilégiés entre l'industrie nationale et le pays, qui va acheter essentiellement des produits nationaux s'il en produit. Et puis sinon, bah, beaucoup de pays européens achètent des produits américains de toute façon. Donc, l'exportation vers l'extérieur en dehors de l'Union européenne est un élément important. On citait les industries. Parmi les industries qui sont principales bénéficiaires, donc, nous, on a vu que les 8 premiers bénéficiaires de ce fonds européen, ils sont pour la plupart impliqués effectivement dans des exportations d'armes importantes, dans des pratiques assez controversées, donc des exportations vers des pays en guerre, vers des régimes autoritaires. Ils peuvent être aussi impliqués dans la production ou la maintenance d'armement nucléaire, ou bien ils peuvent faire l'objet d'allégations de corruption quand même assez régulières. Donc, il y a effectivement tout un contexte qui pose problème. Et la problématique derrière, c'est que ces exportations d'armes, elles ne sont pas inoffensives. Ce que l'on craint, nous, c'est que ce Fonds européen de la défense va contribuer à la course globale aux armements que l'on a au niveau mondial. Donc, il y a vraiment une course à l'armement. Et l'histoire nous a montré à quel point ces phases d'accélération de course à l'armement sont malheureusement très, très évidemment favorables à l'émergence de conflits. Donc, parce que ça va alimenter les tensions, ça alimente ce qu'on appelle le dilemme de la sécurité. Donc, un pays s'arme, l'autre s'arme en face en se sentant menacé, et on rentre dans une spirale comme ça qui fait que les ressources sont... De plus en plus autour de ces questions d'armement. Il y a un autre aspect dans cette course aux armements qu'on a aujourd'hui. La course, elle n'est pas seulement quantitative. la course aux armements, elle est également qualitative. Et ça, c'est un autre aspect important du Fonds européen de la défense, c'est que l'objectif, ce n'est pas juste de faire des armes, c'est de vraiment d'innover. Donc, il y a un focus important qui est mis sur le fait d'améliorer ou de développer des armes en y intégrant toute une série de nouvelles technologies, notamment le numérique, l'intelligence artificielle, les systèmes autonomes, donc type drone, etc. Et aussi, il y a aussi la volonté de pousser la recherche sur les technologies que l'on appelle disruptives, donc vraiment des technologies de changement radical qui vont changer radicalement la façon de faire la guerre. Comme on a eu au moment de la Première Guerre mondiale le tank, qui a été une sorte de révolution de la façon de faire la guerre, on a aujourd'hui des recherches sur des technologies, notamment sur les nanotechnologies, l'utilisation du laser, etc., qui font aussi partie des risques. C'est-à-dire vraiment une course aussi à l'innovation et à des armes de plus en plus rapides, autonomes, intelligents d'une certaine façon, qui représentent des risques éthiques et des risques par rapport à l'impact de ces conflits sur les civils qui sont assez énormes et qui ne sont effectivement pas tellement abordés.
Oui, c'est triste de voir comment les développements de technologies dans le domaine civil, après, peuvent très bien être réutilisés par le domaine militaire et les choses qui sont inventées pour des choses, à des fins meilleures sont détournées. C'est frustrant, mais je voulais te demander comment ces programmes sont contrôlés, qui les contrôle au niveau européen.
Oui, alors ça c'est aussi un enjeu assez important et ça fait partie des critiques importantes que nous on avait par rapport à ces programmes, c'est qu'effectivement ils sont très faibles en termes de contrôle. Là aussi quelque part ils passent un peu entre les mailles du filet, de manière plus ou moins volontaire d'ailleurs, ce qui est très 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 problématique. Pour comparer, ce qu'il faut, c'est peut-être partir de la situation normale. Donc quand on a un programme communautaire comme le Fonds européen de la défense, qui a donc été adopté par le Parlement européen avec les États membres, le Parlement, il a une certaine forme quand même de contrôle ou en tout cas d'influence sur la mise en œuvre. Ce sont des programmes qui durent 7 ans. Et donc, chaque année, la Commission, elle produit ce qu'elle appelle un programme annuel. Donc ça, c'est un des instruments principaux de mise en œuvre. Et le Parlement européen, il a toujours un droit de regard sur ces programmes. Il peut en tout cas décider de le rejeter et de le bloquer s'il estime que ce programme ne répond pas... Il y a des problèmes trop graves dans ce programme de mise en œuvre. Donc, il y a comme ça une série d'actes que la Commission pose pour mettre en œuvre un programme sur lequel le Parlement peut avoir un droit de regard. Eh bien, cette option, elle a été exclue du Fonds européen de la défense. Donc, il y a des règles d'exemption qui font que le Parlement européen s'est lui-même auto-censuré, on va dire, sous la pression des États membres de l'industrie et de la Commission pour ne pas avoir ce droit de regard. Donc là, pour le Fonds européen de la défense, pendant 7 ans, le Parlement européen n'a rien à dire, n'a aucune façon d'essayer d'arrêter quelque chose qui poserait problème. Bien sûr, il va être informé et on a de belles déclarations de la Commission estimant qu'elle va bien sûr consulter et prendre en compte les avis du Parlement, mais dans les faits, ça ne peut juste rien dire, ça n'a aucun poids. À l'inverse, les États membres, eux, ils ont une forme de veto de facto, qui là aussi est une forme d'exemption, puisque il y a toujours, donc, quand un programme comme celui-ci est mis en œuvre, il y a toujours un comité de programme avec les États membres qui vont travailler en coopération avec la Commission européenne. Elle ne fait pas son programme comme ça toute seule dans son coin. Mais là, ce programme, ce comité programmatique d'États membres, s'il ne donne pas d'avis sur ces différents actes, donc comme le programme annuel de travail, etc., alors la Commission est bloquée, elle ne peut plus aller de l'avant. Donc, c'est une forme de veto pour les États membres parce qu'ils ne sont pas obligés de se mettre d'accord pour voter oui ou pour voter non. Donc, ils peuvent simplement laisser les choses en plan, on va dire, quand il y aurait un sujet qui serait trop problématique, trop sensible et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord pour ou contre, on ne dit rien, mais du coup, la Commission est bloquée. Et ça, c'est aussi quelque chose de nouveau qui n'existait pas dans les programmes classiques. Et pour en revenir à la question des justifications, nous, on voit ça même comme un danger pour l'Union européenne. Pour nous, ce n'est pas un gain pour améliorer l'Union européenne, pour renforcer l'Union européenne, c'est un danger parce qu'on ouvre une boîte de Pandore qui fait que les États membres auront maintenant le droit d'aller piquer quelque part dans le pot commun, dans le budget communautaire, mais en pouvant s'affranchir des règles normales européennes, justement, qui garantissent cette dimension collective et communautaire du programme. Donc, pour nous, c'est vraiment un retour en arrière, parce qu'on peut très bien imaginer que pour d'autres programmes, eh ben, on dise, ah ben voilà, on l'a déjà fait pour le Fonds européen de la défense, ben pourquoi pas, pour tel ou tel programme, appliquer aussi les mêmes règles d'exemption. Donc, pour nous, c'est même carrément un retour en arrière. Et alors, peut-être sur la dimension éthique, ça aussi, c'est un élément important. Évidemment, l'autre aspect problématique, c'est les types d'armements qui vont être développés, et notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle, de drones, d'armes autonomes, etc. Là aussi, pour nous, il y a un problème qui est majeur, c'est qu'en fait, il n'y a pas de véritable, enfin, il y a même allez, presque pas de contrôle éthique sur ces armements, c'est-à-dire comment évalue-t-on les projets ? Est-ce que les projets soumis représentent des risques sur un plan éthique par rapport aux types d'armements qui sont développés ? Voilà, parce que quand on développe une arme, il faut aussi penser à la façon dont elle puisse être mise en œuvre sur le terrain, quel impact elle pourra avoir sur un champ de bataille, sur les civils, etc. etc. Bon, ces questions-là, elles sont évacuées. Il n'y a pas de programme ou de contrôle éthique réel, efficace, qui soit fait pour les projets financés jusqu'à 2020. Et à partir de 2021, avec ces 8 milliards d'euros, officiellement, il y a une procédure de contrôle éthique qui fait partie du processus d'évaluation, mais qui, pour nous, n'est pas du tout fiable, parce que, pour le dire en deux mots, en gros, c'est donc le consortium industriel, donc le groupe d'industrie qui sommet un projet, fait elle-même une auto-évaluation éthique de son propre projet. Et on n'a aucun élément, aucune garantie que la Commission européenne, elle va avoir des experts indépendants, réellement indépendants, qui vont, eux, faire une contre-expertise, on va dire, éthique de ces projets-là. Donc, ça va être essentiellement basé sur une auto-évaluation de ceux-là même qui sont en train de demander un financement. Donc, ça n'a évidemment aucun sens. La liste des experts indépendants qui sont censés soutenir la Commission dans l'évaluation des projets ne sera pas publique. Et donc, les documents ne sont pas publics, même a posteriori. Donc, il n'y aura pas moyen de savoir dans quelle mesure ces projets sont réellement éthiquement acceptables, on va dire, par rapport aux enjeux. Et donc, quand on voit les évolutions d'armes autonomes, tout le débat autour de ce qu'on appelle les robots tueurs, même s'ils sont formellement interdits dans le Fonds européen de la défense, mais il y a tout un tas d'étapes de recherche qui peuvent quand même contribuer au développement de ce type d'armes et qui échappent à tout réel contrôle.
C'est vraiment super intéressant et je pense que c'est des sujets dont on doit discuter. C'est pas très rassurant pour nous, citoyens et citoyennes. Je pense que ce manque de transparence, ce manque de contrôle, on a déjà montré que ça pouvait être un problème. On a eu des éléments qui sont sortis sur, par exemple, les armes européennes utilisées au Yémen. On ne peut pas se permettre de complètement trust the process des industriels qui font leur propre évaluation. Et au final, on voit qu'on a beaucoup plus de programmes, de ressources qui sont mobilisées pour ces programmes qui sont adoptés. Et en face, il n'y a pas autant de contrôle qui est mis en place. Donc il y a quand même un gros déséquilibre. Juste pour rappel, je voulais redire les réglementations qui existent au niveau européen. On a la position commune européenne qui est critiquée notamment pour le manque de suivi et de contrôle sur les règles. Et il y a les Verts au Parlement européen qui ont proposé une nouvelle réglementation sur les exportations d'armes européennes, qui ne sera sûrement pas adoptée au vu de la composition du Parlement. Mais c'est intéressant de voir ce qui est proposé, ce qui existe, et comme le contrôle est beaucoup plus lent à mettre en place que finalement le développement des armes. Et puis on parle de matériel de guerre, donc c'est quand même des éléments importants qui devraient être contrôlés par des parties qui n'ont pas de conflit d'intérêts, ce qui du coup n'est pas le cas. Donc merci pour toutes ces explications. Et alors pour en revenir à ce dont on parlait dans l'introduction, la présidence française de l'Union européenne, qui est quand même une thématique importante pour ces 6 prochains mois. Donc la France a montré que la thématique de la défense serait une de ses priorités à l'agenda. On l'a vu aussi notamment dans son rôle sur le Fonds de défense européen que voilà, la France a une place très importante pour recevoir ces fonds. Comment ça se traduit en termes d'individus? Est-ce qu'il y a plus de Français qui sont dans ces postes de décision? Comment ils font pression? Ou alors, est-ce qu'ils ont les positions pour pouvoir faire pression pour ce genre de programme?
Oui, effectivement, ça c'est une question aussi qui est très importante et pas très très visible, parce qu'effectivement, on voit bien que la France, elle a un intérêt quand même particulier à ce genre de programme, mais en même temps, comme je le disais, la France, elle est aussi effectivement très, elle préserve très fort son précaré national par rapport à ces questions-là. Donc, il y a une certaine ambiguïté qui se traduit par pas mal de contradictions entre le fait que la France aimerait bien effectivement avoir quelque part une forme de soutien européen, notamment financier sur ces questions-là, mais en même temps, elle veut garder le contrôle sur ce sujet. Et donc, pour le résumer un peu, souvent, ce qu'on pourrait dire quelque part, c'est que la France aimerait bien que l'Europe paye pour l'armée française et pour l'industrie française militaire. En fait. Ce serait finalement la solution idéale, et c'est un peu ce qu'elle essaye un peu de faire d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est intéressant de voir par rapport à la présidence française de l'Union européenne. Il y a effectivement des jalons importants au niveau de la défense européenne que la présidence française essaye de mettre vraiment en avant et de maîtriser. Donc, un exemple typique, c'est la boussole stratégique, donc une sorte de livre blanc que l'Europe est en train d'essayer de mettre en place, une sorte de livre blanc un peu moins précis et concret et contraignant qu'un livre blanc de la défense française. Et c'est un peu cette idée-là. Et donc, effectivement, la France a beaucoup insisté pour que cette boussole stratégique soit adoptée au mois de mars de cette année, au moment d'un sommet européen, donc juste avant les présidentielles, parce qu'évidemment, sur un plan symbolique, ça a beaucoup d'importance. Mais au-delà de ça, de cet aspect symbolique et politique, il y a aussi, dans une analyse assez rapide, donc on n'est pas rentré dans tous les projets, mais à première vue comme ça, on a remarqué qu'il y a un certain nombre de projets qui rentrent assez fort dans les intérêts industriels et géostratégiques français. Donc, il y a effectivement des entreprises importantes et une part du budget assez phénoménale qui part à la France, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de projets, par exemple, qui vont traiter de systèmes liés au milieu naval, donc au niveau des bateaux, au niveau d'équipements, au niveau de communication, etc., mais qui sont liés vraiment à renforcer les capacités navales, militaires, donc navales. Et ça, évidemment, pour la France, qui est celle qui a une part de contrôle, une part de territoire maritime sous son contrôle extrêmement important, avec des bases, avec des intérêts géostratégiques dans des zones maritimes comme l'océan Indien, évidemment, ça tombe bien d'avoir ce genre de projet. Et donc là, on voit quand même qu'il y a des connexions sur ce plan-là. Après, au niveau des individus, là aussi, en allant un peu collecter des noms, en voyant qui est qui, à quel endroit, on a remarqué que finalement, il y a quand même beaucoup de Français impliqués à différents niveaux de décision et de processus. Il y a des exemples très flagrants. Michel Barnier était conseiller défense de l'ancien président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker, qui est le premier qui a vraiment ouvert la voie à cette militarisation. Donc Jean-Claude Juncker est celui qui a vraiment appelé à une Europe de la défense, à l'augmentation des dépenses, et qui a appelé donc tous ses commissaires, à l'époque où il était président, à trouver comment, à l'intérieur de leur programme civil, ils allaient pouvoir trouver un moyen de soutenir l'industrie de la défense. Et c'est ça qui a été vraiment le moment d'ouverture de tous ces programmes dont je parlais, éducatifs, environnement, social, etc., en faveur de l'industrie de l'armement. Mais il y avait aussi un autre Français qui s'appelait Monsieur Contour, qui s'appelle toujours, je lui souhaite Monsieur Contour, qui était le conseiller défense de la commissaire en charge à l'époque de l'industrie, Madame Jankowska, qui est celle qui a mis sur pied le groupe de personnalités avec les membres de l'industrie et qui a mis en place le programme de développement de 500 millions d'euros de 2019 à 2020. Ensuite, à l'intérieur même de cette commission, dans le département en charge de l'industrie, qui avait donc une unité de défense, on a trouvé aussi un certain nombre de Français en tant que chef d'unité, etc., etc., des conseillers, des détachés nationaux, etc. Au niveau décisionnaire, les députés européens qui ont suivi au sein de la commission industrie notamment, qui ont suivi ce projet de programme de développement d'un demi-million et ensuite milliard, et ensuite le Fonds européen de la défense, on avait énormément de Français de tous les bords, soit comme rapporteurs, comme co-rapporteurs, comme voilà, personne de référence pour leur propre groupe, etc., etc. Donc, effectivement, on voit qu'ils sont... Voilà, on les voit un peu partout, quelque part. Et puis, évidemment, le cas le plus flagrant que l'on a aujourd'hui, bah, c'est le cas du commissaire Thierry Breton. Donc, M. Thierry Breton a été nommé commissaire dans cette nouvelle commission. Il faut savoir que c'est l'ancien PDG de Atos. Atos est quand même une entreprise active dans les domaines de surveillance, de sécurité, et donc qui entre de plus en plus dans le champ défense, qui a effectivement quand même un intérêt à tous ces développements politiques. M. Thierry Breton, donc, il est à la tête aujourd'hui d'un méga portefeuille qui n'existait pas auparavant, qui a été une exigence française du président Macron. Donc, c'est un méga portefeuille qui inclut le marché intérieur, l'industrie au sens large, le secteur de la défense, le secteur de l'espace et une partie du numérique. Donc, c'était énorme. On n'a jamais eu un portefeuille aussi énorme sous un commissaire européen. Il est extrêmement influent. Il est toujours très impliqué au niveau national. Donc, que ce soit au niveau politique avec des contacts politiques, que ce soit au niveau industriel, donc via Atos et d'autres, donc beaucoup de rencontres avec des industriels français. Il est très influent auprès de la présidente de la Commission von der Leyen, au point qu'on le considère comme un vice-président de facto de la Commission européenne. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose de vraiment très, très, très particulier et très marquant aujourd'hui.
Oui, et ça ne fait que... insister sur cet accès à l'Union européenne des industriels ou des anciens industriels de défense. Mais du coup, pour en finir, on voulait parler des implications de ce projet d'une Europe de la défense et de cette militarisation et de se demander, est-ce que, on a un petit peu touché à ça tout à l'heure quand on parlait de la sécurité et quels sont les vrais problèmes sécuritaires de l'Union européenne ou même des États membres. Mais est-ce que cette militarisation répond aux besoins de la société, de l'Union européenne, et est-ce que ça permet une meilleure sécurité en général ?
Oui, alors c'est une question effectivement très vaste, mais c'est clair que nous, de notre point de vue, évidemment, on répond non. C'est clair que ça ne répond pas du tout aux besoins. Bon, voilà, on a effectivement, la crise sanitaire l'a bien montré, le manque de personnel dans les hôpitaux, le manque de matériel, d'équipement, de masques, de respirateurs, etc., etc. Donc ça a été un exemple vraiment flagrant du fait que voilà, ce n'est pas le militaire qui va répondre à ça. Il y a même là une dérive qui est dangereuse, c'est que du coup on a été obligé à un certain moment donné de faire appel à des militaires pour des évacuations de malades, pour des hôpitaux de campagne, et on a présenté ça comme une sorte d'un élément très positif et de montrer à quel point le militaire il est nécessaire pour la société. Personnellement, aussi en tant que citoyen, moi je trouve extrêmement grave qu'on soit dans une société où on est obligé d'appeler des militaires pour remplacer des infirmiers. C'est complètement ahurissant. C'est comme si on disait que comme on n'a plus assez de profs, on va demander à des militaires de venir faire cours ou de venir faire la police dans les cours de récréation parce qu'on n'a pas d'éducateurs. C'est au contraire un signal extrêmement grave qu'on n'a même plus les capacités de répondre aux besoins de la société sans devoir faire appel aux militaires, dont ce n'est pas le métier. C'est même pas une question de bien ou de mal, c'est que ce n'est pas leur métier de faire de la santé ou de faire de l'éducation. Ce n'est pas leur métier. Donc, clairement, pour nous, il y a un détournement en fait, des moyens, parce que c'est extrêmement coûteux, l'armement. Donc, il n'y a pas seulement les milliards qui vont dans la recherche. Ensuite, il y a l'acquisition du matériel, etc. Il y a des tas de formes de soutien et de subsides, on va dire, à l'industrie de l'armement. Et donc, c'est un détournement des moyens, des ressources. C'est un détournement de l'attention politique. Comme on l'expliquait au début, du fait que maintenant, effectivement, on trouve normal de faire venir des militaires pour pallier à des manquements dans le domaine de la santé, clairement, on dérive de priorités civiles vers des priorités militaires. Donc, ça fait un peu dans cette optique, quelque part, d'un discours, d'une rhétorique qui justifie le militaire dans tous les domaines. On a parlé, effectivement, de la problématique de l'exacerbation des conflits et comment cette course aux armements peut influencer cet aspect. Il faut voir aussi que la recherche, elle démontre aussi qu'en fait, au plus on a d'acteurs dans un conflit, au plus le conflit devient difficile à régler. En fait. Surtout quand on a des acteurs internationaux qui s'y mettent aussi. Et donc, un des risques que l'on a, c'est qu'une des justifications derrière ce fond, c'est qu'il faut plus de capacité à l'Europe pour pouvoir jouer son rôle sur la scène internationale. Très concrètement, ça veut dire pouvoir avoir des missions militaires. Parce que si on a des capacités militaires, c'est bien parce qu'on pense qu'on va avoir besoin de les déployer. Or, là aussi, est-ce que des déploiements sous l'égide de l'Union européenne en plus, et non pas de l'ONU ou d'un organisme international, va pouvoir résoudre des conflits, bah, c'est très très loin d'être convaincant comme argument quand on voit bah, les différentes interventions depuis 20 ou 30 ans et ce qu'elles ont pu donner. Donc on y a un risque de compliquer des conflits. Qui dit compliquer des conflits dit créer plus de tensions migratoires aussi. Donc ça c'est aussi un aspect. Un aspect c'est aussi la lutte contre l'environnement. J'ai du mal à imaginer que les armes vont nous servir beaucoup pour lutter contre le changement climatique. Il faut savoir, et donc là, il y a des données qui seraient intéressantes aussi à partager à vos auditeurs. Il y a des données, même s'il y en a très peu, mais on voit très bien que l'impact, donc les émissions de gaz à effet de serre, l'empreinte carbone de l'industrie de l'armement et des armées, des interventions et de l'utilisation des systèmes d'armement, bah, il est énorme en fait. Donc c'est une part qui n'est pas négligeable dans notre impact sur le climat. Donc là, de même, va-t-on vers une solution qui sera, bah, on se prépare aux guerres climatiques. C'est un peu le discours qu'on entend au niveau de l'Union européenne, c'est que plutôt que de mettre le paquet sur résoudre réellement les problèmes environnementaux, on est plutôt en train de se préparer à développer des armements qui puissent fonctionner sur des terrains très particuliers, les déserts, des températures extrêmes, etc. On se prépare aux guerres climatiques. C'est vraiment quelque chose d'assez dramatique. Et de manière plus globale, ce qu'on voit donc, c'est qu'il y a cette approche, elle entraîne une marginalisation des approches pacifiques non violentes. Et je parle vraiment de la non-violence. On ne demande pas à tout le monde d'être ultra-pacifiste, mais en tout cas, le fait de favoriser des approches non violentes de prévention, de résolution des conflits par d'autres moyens que les armes, bah, se marginalise d'autant plus que ce sont des solutions qui demandent beaucoup de moyens humains. Donc, on devrait investir dans l'humain, dans les compétences humaines, de médiation, de dialogue, etc. Et dans le nombre, parce qu'effectivement, pour pouvoir mener des dialogues sur le terrain, dans des zones locales, il faut du monde. Or, ce n'est pas la tendance aujourd'hui, c'est effectivement d'investir dans le technique, dans la technologie. Et c'est un peu le discours de l'industrie de dire on va vous apporter des solutions technologiques pour vos problèmes sociétaux. Donc, surveillance des frontières, barbelés, etc., etc. Et donc, il y a une décrédibilisation de ce qu'on appelle le soft power plutôt qu'un renforcement par ce biais-là, en fait. Donc, de nos points de vue, ça va à l'encontre des besoins des Européens et des besoins mondiaux et de la paix dans le monde et de la résolution des vrais défis que l'on a en termes sanitaires, environnementaux.
Et je pense qu'en plus, on est dans un moment un peu charnier, peut-être, pour penser ces thématiques, puisqu'on a toute la débâcle française / européenne au Sahel en ce moment. Donc peut-être que ce serait le moment pour beaucoup de gens de penser est-ce que investir autant de ressources dans des missions ou des interventions, même sous égide européenne, c'est un bon investissement de nos ressources. Bon, voilà, nous, on donne une plateforme pour penser peut-être autrement. Et on va aussi essayer dans les prochains épisodes de parler plus de la question migratoire, notamment tous les impacts du réchauffement et de la crise climatique sur les mouvements de population et qu'est-ce que ça a comme conséquence pour l'Union européenne. Et on va essayer aussi de parler des alternatives plus pacifiques et du projet de paix plus globalement de l'Union européenne. Donc voilà, je vais laisser Oli conclure cet épisode.
Merci et un grand merci à Laetitia pour toutes ces informations par rapport à la militarisation et ton expertise sur l'Union européenne. C'est très, très apprécié. Je voulais juste en finir par dire que à SFW, on voudrait élargir cette définition de la sécurité. Tu as parlé, Laetitia, du fait que le militaire est un peu la seule solution qu'on a. C'est parce qu'on a tellement investi dedans, même quand c'est des problèmes de santé ou des problèmes reliés à des choses qui ne sont pas du tout normalement militaires, c'est la seule solution qu'on a parce qu'on a tellement investi dedans. Et du coup, il faudrait investir dans l'humain. Et à SFW, on voudrait élargir la définition de la sécurité parce que en vrai, maintenant, sécurité, ça veut dire militaire. C'est quand on parle de sécurité, tant que ce n'est pas militaire, ben, ça n'a rien à voir. Donc, la sécurité pour nous, c'est aussi avoir accès aux services de santé et vivre dans un environnement sain qui n'est pas pollué, qui n'est pas détruit par les gaz à effet de serre, par exemple, ou l'accès à l'eau. C'est aussi la sécurité pour nous. Et c'est ces choses-là dans lesquelles on devrait investir pour notre futur.
Merci beaucoup à vous pour l'opportunité, pour ce podcast très important.
Merci de nous avoir écoutés. C'était Repensons la paix et la sécurité de Stop Feeling War. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à nous envoyer vos commentaires sur cet épisode ou sur les autres. Et si vous voulez nous rejoindre pour notre campagne contre le Salon de l'Armement de Paris, Eurosatory, en juin 2022, ou si vous voulez retrouver toutes les ressources citées dans cet épisode, rendez-vous en barre d'infos. À bientôt !